ensuite le plan des trois moments de la journée de ce matin et cet après-midi. Et en troisième document, vous avez Galates 1 et 2. Ça va? Vous voyez ça? Donc, nous allons lire ce texte. En fait, il est en grande partie, vous l'avez aussi sur le PowerPoint. Donc, vous pouvez aussi le lire sur l'écran. On a un PowerPoint un peu moins bien, mais on fait des efforts absolument désespérés pour essayer que le Zoom marche. Et comme on n'a pas beaucoup de bandes passantes, c'est assez difficile. Donc, pour vous, c'est un peu moins joli, mais bon, vous souffrez pour d'autres. Voilà. Et ensuite, vous avez un tableau chronologique dont je dirai un mot. Alors, ce que j'aborde maintenant, c'est la vocation de Paul et ce nœud, la façon dont lui raconte ce dont je vous parlais tout à l'heure à propos des Actes des Apôtres, cette décision de lui donner possibilité d'annoncer l'Évangile à tous. La vocation de Paul, on a pris l'habitude de parler de conversion de Paul. Je ne sais pas si le mot convient. En tout cas, s'il convient, il convient au récit de Luc dans les Actes des Apôtres. Et c'est, au fond, ce que les chrétiens connaissent, ce récit dramatique, spectaculaire. Paul qui va probablement arrêter, ou en tout cas maltraiter des chrétiens en dehors de Jérusalem, avec des lettres du grand prêtre, tout ça, il n'est pas sûr qu'on avait le droit. Hein, donc, c'est pas tout ça reste un peu mis en scène. Mais qui, sur le chemin, avant d'arriver à Damas, où il se rendait, est renversé, jeté à terre, et a cette vision, il voit, il entend, suivant les récits, les autres voient et n'entendent pas, les autres entendent et ne voient pas. Enfin, il se passe quelque chose d'extraordinairement bouleversant, qui jette Paul à terre et qui, pour lui, va être le point de départ d'un retournement complet. Alors, Non, je ne veux pas le son. Qu'est-ce qu'il me raconte avec le son? Les peintres, à travers l'histoire, ont bien compris... J'ai des problèmes techniques. Une seconde. Oui, ça va pas en diaporama. Les prêtres ont bien compris ce bouleversement de Paul et en gros, on a un peu tous en tête l'un ou l'autre tableau célèbre. Ici, évidemment, ça ne rend rien en PowerPoint, mais le tableau incroyable du Caravage, où vous avez l'impression que vous allez rattraper Paul qui sort du tableau. Alors, dans ce tableau, qui est donc du 16e, même fin du 16e, Paul tombe de cheval. Dans les représentations antérieures, et jusqu'au 12e, 13e siècle, Paul n'est pas tombé de cheval, il était à pied. Il était à pied. Il est bien évident qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je mets mon micro ou bien mon... Ah, alors attends. Ah. Ouh, la technique, c'est compliqué. Ouais. Excusez-moi une seconde. Non, je ne veux pas de mélangeur. Attendez, ça va arriver. Activez le son. Voilà. Non. Je me remettrai le haut-parleur. Normalement, c'est là. Ah, voilà, c'est. Ça y est, ça marche. Voilà. À peu près, non. Ah, heureusement qu'il y a des gens formidables qui savent faire marcher ces trucs. En quoi? Non, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas le diaporama. Non, ça, j'ai fait exprès. C'est pour le faire passer aux autres, on fait un essai. Non, sinon, on mettra en plein écran. Merci. Alors, jusqu'au XIIe siècle, vous avez un Paul qui tombe de sa hauteur. Paul n'est jamais monté sur un cheval. Hein. Il a fait des milliers de kilomètres à pied et en bateau. Les routes romaines facilitant, même si elles étaient dangereuses, mais enfin, c'était mieux que rien, facilitant énormément, certainement, la diffusion du christianisme. On a Peggy qui dit les pas des légions avaient marché pour lui, mais c'est vrai. Il y avait les routes romaines. Paul marchait. Donc, jusqu'au 12e, il tombe plus ou moins bouleversé suivant les enluminures, parce que c'est sur des manuscrits. Il tombe tout plat par terre. Et après les retours de croisade, où le cheval s'était répandu, Paul est à cheval. Bon. Dans le texte de Luc, il est évidemment pas à cheval. Un mot sur ce texte de Luc, que vous connaissez. C'est en fait la mise en scène dramatique et spectaculaire d'un retournement radical. Voilà. Paul partait violemment hostile à ces chrétiens qui méprisaient cordialement, disciples d'un crucifié, il n'y a pas de nom pour les qualifier, et en plus ils étaient des traîtres à la foi juive, donc c'était des mauvais juifs qu'il allait sanctionner au nom de leur judaïsme. Sur le chemin, il est retourné et il perd la vue. Lui, qui était toujours qui était au premier plan de la mission, devient au contraire celui qu'on prend par la main. C'est très joli le retournement et qu'on va amener tâtonnant en aveugle. Il y en a d'autres qui le prennent en charge et qui le conduisent dans la ville. Et là, ça va être encore d'autres médiations qui vont se mettre à l'œuvre. L'Esprit Saint va aller voir un dénommé Ananie qui va être envoyé à Paul. Et c'est Ananie qui va expliquer à Paul ce que Dieu attend de lui. Voilà. Donc Paul est vraiment le gars réduit à rien qui va être réhabilité, refaire ses premiers pas dans la foi chrétienne et la mission. Il y a d'ailleurs des éléments très intéressants. Au bout de 3 jours, les écailles qu'il avait sur ses... Il est baptisé et les écailles qu'il avait sur ses yeux tombent. Donc on a déjà la mise en scène du baptême chrétien. Et puis il prend un repas. Vous avez déjà, au fond, l'initiation chrétienne qui est en route et que Paul va vivre. Bon. Ça, c'est le récit des Actes des Apôtres. Donc un événement spectaculaire, la route de Damas, des gens qui s'entremettent. Et un Paul qui, grâce aux autres, est, au fond, introduit dans la foi chrétienne dont il va devenir le missionnaire. Maintenant, je voudrais vous présenter la version de Paul. Voilà, la version de Paul. Et pour cela, il faut se tourner vers la lettre aux Galates. C'est donc votre troisième document, où vous avez tout le début de la lettre aux Galates, du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 2. Ça suffira bien comme ça. Je situe un petit peu le contexte, parce que je vais passer mon temps à vous dire, il faut toujours, quand on lit Paul, faire attention au contexte. Sinon, on lui fait dire des horreurs, alors qu'en fait, ces horreurs, elles existaient, mais elles étaient très ciblées. Ce n'est pas pareil quand une insulte ou une horreur vise un personnage trublion, ou quand ça s'adresse au monde entier. Donc, toujours contextualiser, Paul. La lettre aux Galates, c'est quoi? La Galatie, c'est le nord, en Turquie, le nord d'Ankara. La région qui est au nord-nord-est d'Ankara. On n'est pas encore en Cappadoce, mais il y a une région qui s'appelait la Galatie. Les Galates avaient un royaume qui avait, au fond, tenu bon devant la République romaine, mais qui ont fini par tomber au tout début de l'Empire. Et donc, depuis une quarantaine d'années, les Galates étaient devenus présents dans l'Empire romain. Le judaïsme y avait peu pénétré, au moins dans le nord de la région. Et les Galates, clairement, étaient des polythéistes, des gens pas très... Il n'y a pas une grande civilisation, et des gens très inquiets, des divinités de la nature, qui avaient peur, qui avaient, des gens qui vivaient un peu sous la peur des divinités de leur religion multiple et variée. Hein, la peur, la nécessité de sans arrêt s'en remettre pour vivre au dieu de la nature, etc. Paul est allé en Galatie et leur annonce la foi chrétienne. Il n'y a plus de Romains et de pas-Romains, vous êtes tous aussi dignes et aussi aimés par Dieu que les autres, qu'il suffit de faire confiance, croyez au Seigneur Jésus-Christ qui vous relève et qui veut de vous des fils de Dieu. Les Galates, trop contents, évidemment, ont pas mal suivi Paul. Et Paul, là, enseigne un bon moment, rassemble une ou plusieurs toutes petites communautés chrétiennes et puis repart. On ne sait pas bien dans quelles années on est, ça discute, mais enfin disons qu'on est dans les débuts des années 40, quelque chose comme ça. Ou la fin des années 30, peu importe. Or, on l'apprend en lisant la lettre, à la suite de Paul, une fois qu'il était reparti, sont venus d'autres prédicateurs chrétiens, juifs devenus chrétiens, de Jérusalem. Ceux-là, davantage marquée par la volonté de rester très liée au judaïsme et qui considérait que si on n'était pas d'abord dans la loi juive, on ne pouvait pas devenir chrétien. Il fallait donc dire aux hommes de se faire circoncire, ensuite pratiquer les rites de pureté de la table, les séparations, etc., etc., pratiquer la loi de Moïse. Comme ils donnaient des signes beaucoup plus concrets, beaucoup plus séparants, des signes beaucoup plus clivants pour montrer que, voilà, si on faisait ceci, ceci, cela, on était chrétien vraiment. Si on observait la loi de Moïse, ça se voit dans le fait qu'on se sépare du reste de la société quand même, d'une certaine façon. Un certain nombre de Galates se sont dit, ben pourquoi pas, au moins on aura des garanties. C'est sécurisant, c'est assez sécurisant la loi d'une certaine façon. On peut trouver que c'est lourd, mais c'est sécurisant. C'est toujours le même problème. Donc les Galates ont commencé à dire, oui, on reste chrétien, mais on se fait circoncire. Et Paul apprend ça, hurlement, évidemment, hurlement. Et on va voir que la lettre, au fond, est encore empreinte de ce mouvement de colère de Paul lorsqu'il a appris cette chose-là. Il apprend ça et il va donc écrire aux Galates pour leur dire ça ne va pas. En plus, il est très probable, ça se dit assez vite en filigrane de la lettre, que ces prédicateurs venus de Jérusalem avaient largement mis en doute l'authenticité de la mission de Paul. Qui est-il celui-là ? Il n'a pas connu Jésus, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'a pas connu Jésus selon la chair. C'était un pharisien arrogant. Pourquoi maintenant il a tout abandonné ? Enfin, Paul est complètement discrédité. Et ça, ça ne lui plaît pas, évidemment. Donc, Paul va réagir en écrivant aux Galates. Cette lettre violente, c'est une lettre passionnée, violente, avec même, à mon avis, un véritable dérapage verbal à la fin. Puisqu'il finit par leur dire, exaspéré, « Si vous voulez vous faire circoncire, allez donc vous faire castrer. » Voilà. C'est pas très joli, c'est pas très joli. L'amour chrétien n'est pas très présent. Enfin bon, il le fait. En même temps, c'est assez rassurant. C'est un homme comme les autres et il est capable de coups de gueule et on le sait. Bon. Alors, Paul va donc écrire aux Galates et dans l'écriture aux Galates, dans la lettre aux Galates, il va à la fois défendre ce qu'il appelle la vérité de l'Évangile, tel qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, à tous par pure grâce. Il n'y a pas besoin de signes séparateurs. Il n'y a rien qui sépare. Au contraire, et en même temps, l'authenticité de sa propre mission. Ou si, si, moi, Paul, ce que je vous ai raconté, c'est la vérité de l'Évangile, et je suis habilité à cela. Donc, une lettre qui a des allures d'autodéfense personnelle. La critique s'en est emparée dans les années 70-80 et a voulu montrer que la lettre aux Galates était bâtie comme un discours devant un tribunal avec... un prologue, une péroraison, etc. Peut-être, en tout cas, Paul sait faire, mais à mon avis, la lettre est davantage... En tout cas, s'il y a un cadre, et le cadre est celui de la lettre, et le cadre est celui du discours, s'il y a un cadre, il est évident que la passion qu'il y a derrière le bouscule complètement, et qu'on ne peut pas montrer que c'est une lettre de bon élève bien sage. Donc, on va lire ce début des Galates. Donc, vous l'avez soit sur votre feuille, soit ici, si c'est lisible en plus petit comme ça, c'est lisible même du fond, non? Vous y voyez quelque chose? Bon, parce que là, on a rétréci l'écran. Alors, Paul se présente dans une lettre paulinienne. Du coup, je fais un petit détour pour vous présenter les lettres pauliniennes. Dans une lettre paulinienne, il y a normalement un schéma assez courant, parce qu'il y avait des règles pour écrire des lettres, et Paul savait faire. Et le schéma assez courant consiste d'abord à nommer le destinateur, c'est-à-dire le dos de l'enveloppe, qui est-ce qui écrit ? Paul, apôtre de... Voilà. Or, en monde juif, on n'est jamais témoin tout seul. Il faut être au moins deux. Donc, vous trouverez dans les lettres de Paul, Paul, apôtre de Jésus-Christ, et Timothée, et Barnabé, et les frères qui sont avec moi. Voilà. Il faut être plusieurs pour témoigner. Donc, un destinateur dont les lettres... qui n'est pas tout seul. Deuxièmement, on a un destinataire, l'adresse à tous les frères qui sont, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. Aux églises de Galatie, les églises galates, c'est le destinataire. Donc il y en avait plusieurs. Donc il y avait plusieurs petits groupes. Ça nous pose la question, comment ça se passait ? Paul dicte des lettres. Et puis, il y a toujours quelqu'un, lui, de temps en temps, mais souvent quelqu'un qui va et ça c'est courant dans l'Antiquité, qui va porter la lettre, mais il y a aussi celui-là ou un autre qui va la lire devant là ou les communautés. Une lettre, ça se dicte et ça se lit. Et vous comprenez bien que le lecteur, il explique. En monde juif, ça s'appellera le Targoum, l'explication de l'écriture. Le lecteur de Paul, il devait expliquer. Et c'est pour ça que nous avons souvent tant de difficultés à lire Paul, d'abord parce qu'il sait être obscur, il sait surtout être ramassé. Et donc, voilà, il faut essayer de comprendre. Et puis, on n'a pas le lecteur qui, derrière, devait expliquer à sa sauce. Ce sont des lettres qu'il faut expliquer à mesure, et qui étaient expliquées à mesure. Sinon, je pense qu'ils n'auraient pas compris grand-chose. Alors, on a donc le destinateur. On a les destinataires et on a une salutation. À vous, grâce et paix. Hein, donc, shalom, pour ceux qui parlent l'hébreu. S'il y avait des Arabes, ils diraient salam. Et la paix, c'est Irénée, c'est en grec, c'est la salutation de la paix, allez en paix. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette enveloppe de la lettre, Paul glisse toujours, de façon variée, une profession de foi. Une de ces expressions de la foi, on avait parlé l'année dernière, qu'on a très première, de ces premières expressions du concentré de la foi, qui ont pris des allures de formules, on les appelle des kérigmes, des proclamations. Alors, dans les lettres de Paul, il y en a souvent, c'est jamais la même, c'est adapté aux différentes communautés. Et là, par Jésus-Christ, c'est très simple, une des plus simples, et par Dieu Père qui l'a ressuscité des morts. Ceci dit, après cela, une lettre commence toujours par des remerciements, et normalement chez Paul par une action de grâce. Et ça commence toujours par le mot grec « ευχαριστώ ». Je vous en prie, je vous prie et je vous rends grâce. Donc, et qui a donné notre Eucharistie. Il y a un moment d'action de grâce. Et dans les lettres de Paul, ça consiste à dire tout ce que Dieu a fait pour les églises et pour les hommes et pour ceux qui vont croire en lui. Une fois qu'on a bien déployé le remerciement et la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, il y a ensuite une exhortation, parakalo, je vous exhorte, une invitation à essayer autant qu'on peut d'être à la hauteur. Alors, c'est très difficile, donc voilà, de longues exhortations pour dire ben, Dieu a fait ça pour vous en Jésus-Christ, essayez de vous montrer des disciples du Christ. Voilà, une longue exhortation. Alors, c'est intéressant ça, parce que ça permet de mesurer la température des relations entre Paul et les Églises. Dans la lettre aux Thessaloniciens, où en gros tout va bien, l'Église de Thessalonique, toute petite, se comporte comme on peut le souhaiter, il y a vraiment une attention à l'autre, il y a des petites bagarres, mais pas trop. On a 6 petits chapitres, dont les 3 premiers qui sont les plus gros d'actions de grâce. Il y a même 2 actions de grâce successives. Tout va bien, on remercie Dieu pour ce qu'il fait pour les Thessaloniciens. Et puis, il y a nécessairement 3 petits chapitres, 2 ou 3 petits chapitres d'exhortation. Quand vous passez à la première lettre aux Corinthiens, qu'on lira cet après-midi, où ça commence vraiment à aller mal, vous avez 10 lignes d'actions de grâce. Elles y sont. Eucharisto. Je remercie. Je rends grâce à Dieu. Et après, vous avez 13 chapitres ou 14 chapitres d'exhortation. Ça commence à aller vraiment mal. Dans la lettre aux Galates, il n'y a pas d'action de grâce. Tellement ça va mal. Ça va tellement mal que Paul attaque tout de suite. Et il attaque en disant, alors, ça n'est pas sur le pouvoir. Je m'étonne que vous vous détourniez aussi rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce, c'est-à-dire le Christ, pour passer à un autre évangile, où on apprend que voilà, ils sont passés à quelque chose d'autre, et pour Paul, il n'y en a pas d'autre. Seulement, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Et Paul va commencer donc tout de suite à dire la situation, ça ne va pas. On est venu pervertir pour vous l'évangile du Christ. Et en même temps, il commence à se défendre lui-même. Avec cette étrange façon de se présenter et de donner ses lettres d'habilitation, je reprends la première ligne. Paul, envoyé, c'est comme ça que je traduis le mot apôtre. Hein. Apôtre, ça veut dire envoyé. Paul, envoyé, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu Père. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il a besoin de le dire ? Qu'il n'est pas envoyé de la part des hommes. On ne lui demande pas par qui il n'est pas envoyé. On lui demande de dire par qui il est envoyé. Il est en train de commencer à se battre et de dire que son apostolat, il le doit à sa rencontre avec le ressuscité et que son envoi n'est pas... Il n'est pas le missionné de quelques apôtres ou d'un autre. Il est missionné par Dieu lui-même et par le Seigneur Jésus-Christ. Ça continue un peu plus bas. Alors, j'ai mis en gras les prépositions parce qu'il épuise toutes les prépositions de la langue qui, d'une façon ou d'une autre, dirait qu'il y a une médiation. L'évangile que j'ai reçu n'est pas d'après un homme, ni en passant par un homme, mais par. Voilà. Donc, on sent quand même, dès le début, la mauvaise humeur, et plus que la mauvaise humeur. La posture est une posture de combat. Ce n'est pas ce qu'on dit. Moi, ça vient directement de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ça marche, ça ? Alors, on continue. Paul rappelle son passé. Et on trouve des choses semblables dans les Actes des Apôtres. Au verset 13, vous ne l'avez pas dans le PowerPoint, je vous le lis. Vous l'avez sous les yeux. En effet, vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Je persécutais à l'excès l'Église de Dieu et j'ai cherché à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme plus que la plupart de ceux de mon âge, dans ma race. On ne traduit plus comme ça maintenant. Je supprimerai ce mot l'année prochaine. C'est la traduction de la Tob. Et c'est pas, il n'y a pas de race dans le judaïsme. Il faut dire dans ma religion. Ou dans mon appartement. Ah ben alors c'est bien, dans votre texte, j'ai corrigé. Dites-moi ce que vous avez. Parfait, je vous remercie. Donc c'est moi qui ai un mauvais texte. C'est ça qu'il faut traduire. L'affirmation que les Juifs étaient une race, a fait d'abord est fausse, et ensuite a fait tant de mal dans l'histoire qu'il vaut mieux la sortir d'une rétro-projection qui est fausse dans les textes. Et donc on va traduire par religion. C'est une appartenance familiale hein, qui remonte assez haut, ascendance et descendance. Génos, en grec, c'est le genre, voilà. Mais c'est la famille de l'engendrement. Ça veut dire aussi les générations. En fait, ça rattache. C'est une, c'est une appartenance par le sang. Une filiation, une ascendance, une appartenance par le sang, et aussi dans le judaïsme par la religion, mais ça fait qu'un. On est N-A-I-T, juif. On est juif. Moi, je ne distingue pas les N-A-I-T et les N-E parce que je suis du Midi et que je ferme tout, mais normalement, on doit dire on est juif, c'est ça ? Voilà, alors, il va leur dire donc que lui, il était parfait dans son milieu religieux et même un peu supérieur aux autres. Je vous disais qu'il n'y a pas de ressentiment de Paul. Il appartient à un des courants, il y en a plusieurs, hein, un des courants du pharisaïsme, ils étaient en débat entre eux, qui est extrêmement rigoriste et insistant sur les observances en tant qu'elles donnaient des mérites. Et les mérites, on les produit devant Dieu. Et là-dessus, Paul était imbattable, il le dit aussi dans la lettre aux Philippiens. Alors, comment va être présenté maintenant ? Il va entrer dans le récit de ce que nous avons vu tout à l'heure chez Luc comme sa conversion, quelque chose qui lui est arrivé, ce retournement. Mais quand Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les nations. Nations, ça veut dire tous les peuples, hors le peuple juif, les païens. Aussitôt, je ne suis pas montée à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis partie, etc., etc. Je m'arrête sur ce petit morceau de phrase parce que c'est tout ce que nous apprenons par Paul de sa vocation. Le grand récit spectaculaire de Luc, celui qui est représenté ici ou là, a complètement disparu. Paul va présenter l'affaire comme, au fond, un événement intérieur dont on ne sait pas s'il a eu lieu, quand il a eu lieu, s'il a eu lieu une fois, plusieurs fois. Il ne dit pas du tout comment ça s'est passé. Il se met du point de vue de Dieu et se présente dans la mouvance, dans la lignée des grands prophètes d'Israël. C'est très clair. Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, vous trouvez ça au chapitre 1 de Jérémie, la vocation de Jérémie, rien que ça. Et vous trouvez ça au chapitre 49 d'Isaïe, la vocation du second prophète Isaïe, celui qu'on va appeler ensuite le serviteur souffrant. Donc il reprend le vocabulaire, les termes des vocations des prophètes d'Israël. Et c'est dans cette mouvance qu'il s'inscrit. Et donc, dit-il, j'étais choisi par Dieu dès le ventre de ma mère. Et invité à ça. Je disais tout à l'heure, Paul n'a jamais pensé qu'il quittait le judaïsme. Mais il s'inscrit, à partir de ce moment-là, dans la droite ligne d'un judaïsme prophétique, qui n'est pas le judaïsme du temple, qui n'est pas le judaïsme centré sur le temple, les sacrifices et la loi, ça c'est sûr. Mais qui est davantage le judaïsme dans lequel Jésus s'est manifesté. L'événement, on ne le saisit pas, puisqu'il est dans la proposition subordonnée, quand Dieu a jugé bon, la décision, les décisions de Dieu étant par définition impénétrables et insondables, on ne sait pas quand Dieu a jugé bon. Et Dieu a jugé bon de quoi ? De révéler, donc c'est vraiment une espèce de lumière, un voile enlevé et une vision nouvelle que Paul a eue des choses, de révéler son fils, donc révélation de Jésus comme le fils de Dieu. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand il dit « révéler son fils en moi », ça fait bizarre. Et j'ai traduit cette bizarrerie parce qu'il avait parlé un peu auparavant d'une révélation de Jésus-Christ. Jésus se révèle à un tel, à un tel. Mais là, c'est pas « il m'a pas révélé son fils ». Il a révélé son fils en moi. C'est-à-dire que c'est en Paul lui-même que quelque chose s'est produit, qu'il a lui-même transformé. Paul aussi a vécu une aventure de filiation. Et il va le dire. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il ne s'approprie pas le Christ, mais il s'identifie intérieurement à lui. Et au fond, c'est ça, nous dit-il, qu'il a vécu. Alors, on peut discuter, on peut dire que c'est n'importe quoi. C'est ça qu'il nous raconte. Il n'est pas tombé par terre, il n'est pas tombé de cheval. Il a vécu un événement intérieur qu'il a dépossédé de lui-même et qui lui a donné une autre appartenance, quelque part une autre identité. Et en plus, cette révélation de ce lien nouveau à Dieu à travers le Christ avait un but, et toute la phrase est polarisée par ça, afin que je l'annonce aux païens, c'est-à-dire afin que je l'annonce aux plus éloignés. Du même mouvement, alors que dans les Actes des Apôtres, ça sera progressivement, et avec des interventions de l'Église et de la communauté d'Antioche, etc., là, du même mouvement, Paul décrit cette révélation. Je ne sais pas si elle a été fulgurante ou lente, on n'en sait rien. Mais il la décrit comme en même temps un envoi, afin que je l'annonce aux nations. Ceci dit, et si vous m'avez bien suivi, la suite de la phrase, c'est la proposition en grammaire. On dit que c'est la proposition principale. Tout ça, c'était des subordonnées. Et la proposition principale, c'est « aussitôt, j'ai fait la mauvaise tête ». Enfin, je traduis en bon français. Mais « aussitôt, je ne suis pas monté à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi ». Si ce n'est pas l'expression du sale gosse qui dit « j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas », j'ai rien compris. Quand même, qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça ? Eh bien non, il ne veut pas. Ça se passe entre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et lui, et ceux à qui il est allé l'annoncer. Voilà. Ça, c'est la position de Paul, c'est la façon dont il raconte son histoire. Et il dit qu'il est allé se balader en Arabie pendant 3 ans. Alors, en Arabie, il n'est pas allé au désert. Hein. Ce n'est pas l'Arabie du désert. En gros, et Luc le confirme dans les Actes des Apôtres, c'est l'Arabie heureuse, c'est Petra, c'est une partie de la partie désertique aujourd'hui, moins à l'époque de la Jordanie. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, après 3 ans, donc il a laissé passer le temps, je suis montée à Jérusalem pour m'enquérir de... Alors, je prononce Kephas, hein. On l'écrit comme ça, mais le nom araméen c'est Kephas, c'est le nom araméen de Pierre, c'est compliqué, parce que Pierre s'appelait Simon, que Jésus lui donne dans les évangiles le nom grec de Pétros, et il apparaît dans les évangiles souvent comme Pétros, mais en araméen, ça se disait Képhas. D'ailleurs, c'est rare comme mot. Bon, la pierre, le rocher, probablement. Donc, Paul emploie à propos de Pierre son nom araméen. Il le remet, j'allais dire, le plus loin possible dans l'aventure avec Jésus et ne lui donne pas une grande autorité sur le monde grec. Il va pratiquement toujours parler de Képhas. Il est allé s'enquérir, donc, je traduis auprès de Pierre. S'enquérir, c'est le verbe de l'histoire. Il est allé mener son enquête. Et je suis restée auprès de lui 15 jours. Évidemment, tous les exégètes pauliniens de la terre donneraient cher pour savoir ce qu'ils ont pu se raconter pendant 15 jours. Alors, il y en a un qui est évidemment un anglo-saxon qui dit avec l'humour de rigueur, ils n'ont certainement pas parlé que du temps qu'ils faisaient et de la tasse de thé qu'ils buvaient. Probablement. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Paul a tout appris. Paul a tout appris, il ne savait rien. Si, il savait, par les chrétiens qu'il avait persécutés, il savait ce Jésus crucifié, mais au fond, de la vie, de ce que Jésus avait été dans les jours de sa chair, il ne savait rien. Et c'est ça qu'on lui reproche. C'est ça qu'on lui reproche, qu'on continuera à lui reprocher. Il n'a appris que de Pierre et encore si peu de temps. Il dit aussi ensuite qu'il est allé voir Jacques, auquel il va décerner le nom d'apôtre, puisque pour lui, tous les envoyés de Jésus-Christ sont des apôtres. Je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et la suite est compliquée, parce qu'il nous manque le débat derrière. Il répond dans un débat où on l'accuse de mensonge, mais il ne nous dit pas de quoi on l'accuse. Ce que je vous écris, voilà en face de Dieu que je ne mens pas. Qui a dit qu'il mentait ? Des gens. Et on a les réponses. On n'a pas la voix de l'accusation, ce qui est toujours très dangereux. En tout cas, il faut croire Paul sur parole. Il y a des gens qui l'avaient accusé de mentir. Je m'arrête là une seconde. Question. Ça va ? Vous êtes à peu près... Vous me suivez à peu près dans la démonstration ? Alors, on passe. Alors, vous pouvez lire... Le petit passage intermédiaire, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en crise. Donc il y avait déjà des églises plein la Judée, hein, des petits groupes chrétiens. Seulement, ils avaient entendu dire, celui qui nous poursuivait naguère annonce maintenant la foi qu'il détruisait alors et il glorifiait Dieu à mon sujet. Donc il leur dit, il y en a qui glorifient Dieu pour moi. La lettre continue. Nous avons un chapitre 2 dans les lettres pauliniennes et les premiers manuscrits qui nous sont restés, et c'est déjà extraordinaire, datent du tournant du 2e, 3e siècle. Les premiers morceaux de manuscrits portant des lettres de Paul sont du début du 3e siècle. Après, on en a plein. Mais bon, on écrivait sur du papyrus. Le papyrus est une matière friable, sauf si vous aviez la chance d'être enterré dans une grotte, la Géniza au Caire, ou bien dans les grottes de Qumran et du désert, où c'était extrêmement sec, votre papyrus, au bout de quelques années ou quelques décennies, il n'existait plus. Donc c'est grâce à des copies à nouveau, des gens qui ont recopié, que les choses nous sont arrivées, déjà jusqu'au 3e siècle, et c'est magnifique, et puis ensuite, de plus en plus, puisque le Nouveau Testament se constituant, on va en avoir des dizaines et des milliers de copies dans les monastères de la chrétienté. Il n'y avait pas de chapitre. La lettre suit. Hein. Moi, j'ai séparé suivant la méthode des chapitres qui apparaît d'abord au 12e, après au 15e pour les versets. Mais voilà. Ensuite, après 14 ans, je suis montée à nouveau à Jérusalem. Je l'ai fait d'après une révélation et je leur ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations, parmi les païens. Alors, vous essayez de compléter, mais il faut imaginer. Après 14 ans, il a laissé un trou de 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 14 ans ? Il est monté à nouveau à Jérusalem. D'après une révélation, dit poliment, ce n'était pas de bonne grâce, ce n'était pas de mon plein gré. C'était parce que j'étais poussée par derrière, par une révélation, par l'Esprit de Dieu. Enfin, voilà. Il a mis du temps à y aller, il a fini par y aller et il considère qu'il a été bien poussé. Et je leur ai exposé, leur, on ne sait pas qui c'est, ceux de Jérusalem. On va voir qu'il en a après eux après. L'évangile que je proclame parmi les païens. Donc déjà, il a, pendant 14 ans, largement proclamé l'évangile parmi les païens, forgé des communautés chrétiennes, il a baptisé, il a un peu partout des petits groupes chrétiens qui se réclament de Jésus-Christ. Si nous revenons aux Actes des apôtres, et si nous reprenons la chronologie dont je vous ai dit, je vous ai mis une espèce de chronologie mal fichue sur une pièce après. Je ne suis jamais arrivée à la rentrée sur le PowerPoint. Peu importe, vous l'avez. J'ai mis une espèce de chronologie. Faire la chronologie des voyages de Paul, ça va très bien quand on l'enseigne au catéchisme, parce que les gosses sont contents, on dessine des cartes, on fait des voyages, machin. Bon. En fait, c'est une affaire très risquée et très difficile, parce qu'on n'a que les renseignements et la géographie que Luc veut bien nous faire suivre dans les Actes des apôtres. Et ce n'est pas toujours clair. Enfin, on s'efforce. On s'efforce de faire des trajets de voyage et on s'efforce de faire une chronologie. Or, la chronologie de Luc dans les Actes et ce que nous raconte Paul ici est impossible à faire coïncider. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Dans les Actes des apôtres, Luc voit la conversion de Paul au chapitre 9, le renvoie à Tarse, parce qu'à Jérusalem, il était un peu lourd et qu'on avait peur de lui. Puis, Barnabé va le chercher à Tarse et l'emmène avec lui au chapitre 11, travailler dans l'église d'Antioche. Donc, Antioche, qui à l'époque était Antioche de Syrie, qui maintenant est en Turquie, mais au coin de la Méditerranée, là-haut. Voilà, Luc le ramène à Antioche et c'est d'Antioche qu'au chapitre 13, Paul va partir, envoyé par les responsables de l'église d'Antioche pour une première mission, dont il revient au chapitre 15 pour dire aux apôtres « Est-ce que je baptise des païens ?» Première mission très courte, qui est une incursion à partir de Tarse vers... J'ai une carte quelque part, mais elle est illisible. Vous en avez aussi des cartes. La mienne est illisible. Ah non, il faut que je remonte par là-bas. Dans une petite seconde, je vais retrouver ma carte. Oh là là! Quand on n'est pas dans le diaporama, on est un peu perdu. Voilà. Je vais remettre ma souris comme il faut. Ça va venir. Attendez un peu. Ah oui, ça va grandir. Voilà. Bon, vous y voyez rien. Mais le premier voyage missionnaire de Tarse est au coin. Je vais me lever, en gros. Jérusalem est là. Antioche de Syrie est là. Là, il y a le coin de la Méditerranée et Tarse. Là, il y a les montagnes du Taurus. Ce que Paul a fait, c'est qu'il est parti d'Antioche, et en bateau d'ailleurs, et il est allé atterrir quelque part par là, voilà, à Antalya actuellement. Puis il a fait un petit crochet ici, vers le pays Galate. Voilà, vers le pays Galate, il est revenu. Premier voyage, peut-être il a fondé ses églises de Galatie, c'est pas sûr parce qu'il ira ensuite plus au nord, mais Luc considère que lorsque Paul a fait ce premier voyage, le haut-parleur parce qu'on a des effets indésirables. Ça va venir. Oh, la barbe. Ça va être fort. Oh, la barbe. Option de contrôle du volume. Bon, j'ai fait des catastrophes. n'arrive pas du tout. Normalement, si tu appuies très fort là-dessus, tu devrais y arriver. Alors, il revient à Jérusalem au chapitre 15. Il propose aux apôtres d'aller baptiser des païens. Ici, Paul, qu'est-ce qu'il a fait ? Après, il repart pour une très longue mission en Galatie. Et puis, il tourne à gauche, sur nos cartes. Vous voyez, incursion en Galatie, et là, il va sur la côte, Thessalonique, Philippe, et puis Corinthe. Voilà. Et retour. Ce voyage a duré, évidemment. Si vous voulez peupler les 14 années dont Paul nous parle, il faut bien lui faire ce deuxième voyage missionnaire. Eh bien, la fondation d'églises en Galatie, à Thessalonique, à Philippe, à Corinthe, comme il en parle, où il dit qu'il a baptisé des gens. Donc, Paul prétend, au contraire de ce que dit Luc, que la réunion à Jérusalem, où il a fait labelliser son droit à baptiser des païens, n'est pas venue très tôt dans l'histoire, après un premier petit voyage missionnaire, mais très tard, au bout de 3 plus 14, 17 ans. Et qu'en fait, il est allé à Jérusalem avec derrière lui des communautés chrétiennes bien vivantes, un évangile qu'il a exposé aux païens et il vient montrer, voilà, c'est ça mes lettres de noblesse, il vient montrer ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui a raison ? Oui. Tite, c'est un de ses compagnons, un de ses proches compagnons, Paul en a plusieurs, Barnabé d'abord, Sylvain ensuite. Et les plus proches, ce seront Timothée et Tite, qui sont certainement des jeunes. Tite est un grec, et donc il n'est pas circoncis. Il n'est pas circoncis, et Paul a fait exprès. Quand il monte à Jérusalem, il monte. Barnabé, c'est aussi un apôtre. Mais celui qui n'est pas circoncis, c'est Tite. Vous allez voir, il va apparaître. Il va apparaître. Et Tite est un, comment dire, Tite fait beaucoup d'allers-retours entre les communautés et Paul. Tite est un diplomate. Quand ça va trop mal, Paul s'en va, par exemple, à Corinthe, et il envoie Tite. Et Tite rétablit la paix. Voilà. Donc il utilise beaucoup Tite pour ça. Ici, quand il monte à Jérusalem, il emmène Tite avec lui. Si vous lisez le texte, vous allez voir qu'on a un texte auquel, d'une certaine façon, on ne peut guère comprendre deux choses, parce qu'il faut sans arrêt, rajouter, compléter. Et au fond, c'est un texte écrit, encore dicté sous le coup de la passion. La rencontre a été difficile, passionnée, et Paul le vit encore comme ça. Je vous lis le texte. Je leur ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations, mais je l'ai fait en particulier à ceux qui sont considérés. On verra que ce sont les apôtres. De peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais même Tite, mon compagnon qui est grec, ne fut pas contraint à la circoncision. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ce truc. Qui a dit qu'on allait contraindre Tite à la circoncision ? Ben, c'était dans l'air, évidemment. Paul se bat contre des choses que nous n'avons pas. Alors après ça, il est très violent. C'était à cause de faux frères, des intrus qui s'étaient introduits pour espionner notre liberté. On est en plein vocabulaire de combat, hein. Faux frères, intrus, espions, etc. Celles que nous avons en Jésus-Christ pour nous réduire à la servitude. Il n'y a pas par quatre chemins. À cela, nous n'avons pas cédé, même pour une concession momentanée, afin que la vérité de l'Évangile demeure pour vous. Donc, une atmosphère extraordinairement bousculée, bouleversée, avec des combats de couloirs dont nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'il y avait une grande hostilité à Paul, à Jérusalem, et qu'un certain nombre, probablement Jacques et d'autres, tenaient à ce que les païens soient au moins circoncis, sinon au moins observent les éléments de base séparateurs de la loi de Moïse. Pourtant, il va y avoir une entente. Et Paul la présente de façon très solennelle et surtout de façon très équilibrée. Il ne laisse pas, comme dans les Actes des Apôtres, à Jacques dire « l'Esprit Saint et nous avons décidé que ». Il dit « moi et eux, eux et moi, à égalité ». Après, ça vous peint le personnage aussi. Hein. Au contraire, voyant que l'évangile des incirconcis m'était confié à moi, comme à Pierre, celui des circoncis, et connaissant la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Céphas et Jean, c'était probablement Jacques à ce moment-là qui avait la responsabilité de l'église, ceux qui sont considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main à Barnabé et à moi en signe de communion. Donc, il y a eu un accord. Il y a eu un accord, et si on regarde le détail, si vous lisez le détail du texte, là j'ai mis quelques phrases, celui qui avait agi en Pierre pour l'envoyer auprès des circoncis avait aussi agi en moi pour les nations. On voit assez bien que cet accord, il passe par une répartition des territoires de mission. Pierre s'en va vers le monde juif, en un sens très général, la diaspora, là où elle est le plus nombreux, c'est-à-dire essentiellement vers le nord et nord-est. Pourtant, Pierre ira quand même à Jérusalem. Paul s'en va vers le monde grec, les incirconcis. Il passera aussi par les synagogues. Mais ici, il fait comme s'il y avait un partage bien tranché de la répartition des missions, chacun de son côté, et finalement, on finit par se donner une main de communion. Alors, est-ce que ça veut dire une réconciliation et une union des cœurs? À mon avis, le ton de la lettre de Paul montre qu'il n'est pas du tout prêt à une réconciliation ni à des sentiments de fraternité ou d'amitié pour Pierre et surtout pour Jacques. Dit en bon français, il les déteste cordialement. Mais l'agapé chrétienne, ce n'est pas nécessairement tout le monde y sait, mais tout le monde y va bien. On se reconnaît une égale dignité aux yeux de Dieu et donc en tant qu'être humain. On n'est pas obligé de s'aimer follement. Et visiblement, Paul ne cherche pas à aimer follement les apôtres. Il avait une dent contre Jacques de Jérusalem et l'autre de même. Les Actes des Apôtres finissent par le dire, puisque c'est Jacques de Jérusalem qui finalement le fait arrêter à la fin des Actes des Apôtres en l'envoyant au temple. Et la foule va se déchaîner et c'est les Romains qui vont intervenir et arrêter Paul. Donc ça s'est très mal passé entre eux, mais il y a eu un moment. Il y a eu un moment de communion. Et la communion, qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Paul? C'est très, très clair. Il le définit dans la lettre aux Philippiens. Ça veut dire qu'on donne sa foi et sa confiance au même Jésus-Christ mort et ressuscité pour tous. Voilà. On participe désormais de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'autre, que je n'aime pas beaucoup, il participe autant que moi. Et donc, je n'ai aucun jugement de fond à porter sur ce qu'il est. Après, les sentiments, c'est autre chose. Et Paul, les sentiments, c'était un peu rude. Voilà. Si vous avez encore un tout petit peu de patience, oui, on a 5 minutes encore, je voudrais finir la lecture de ce... Il m'est arrivé un zoom au milieu. Mais je ne peux pas. Voilà. Si vous avez un peu de patience, on lit la suite de la lettre. Est-ce que c'est là? Voilà. Donc, dans votre texte, à vous, c'est derrière, au verset 11, en haut de la page derrière. Donc, on se quitte. Paul raconte qu'on s'est quitté en assez bons termes, en tout cas, en ayant passé une main de communion et un accord. On est d'accord pour qu'il baptise des païens sans les circoncis. Mais il y a eu un deuxième épisode qu'il va rappeler, toujours avec la même difficulté. Mais quand Képhas vint à Antioche, donc ils se sont rencontrés encore un jour à Antioche, Antioche de Syrie, je m'opposais à lui, et Paul n'y va pas par 4 chemins, car il était coupable. C'est bien ça qu'il dit. Il était en son tort. En grec, il a un mot qui veut dire qu'il était condamnable. Condamnable et condamné d'avance. Ce qui n'est pas terrible. En effet, avant que viennent des gens du parti de Jacques, Jacques de Jérusalem, Képhas mangeait avec les païens. C'est-à-dire que finalement, Pierre avait abandonné les lois de pureté juive de la table. Il avait abandonné la cacheroute pour partager la table des chrétiens venus du paganisme. Mais quand ils furent arrivés, ils se dérobaient et se mettaient à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire des judéo-chrétiens. Et Paul lève les bras au ciel et même Barnabé qui est son bras droit, fut entraîné dans leur jeu. En grec, le jeu, c'est l'hypocrisis. C'est le jeu des acteurs qui a filé vers le sens d'hypocrisie. On avance masqué, on joue derrière un masque. Donc, on ne montre pas son vrai visage. Et c'est ça qu'il reproche à Pierre, pas montrer son vrai visage. Et du coup, Paul lui a fait une scène publique. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit vers la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, puisqu'il avait abandonné les lois, comment peux-tu contraindre les païens à suivre la loi juive ? Et donc, publiquement, il montre que Pierre s'est désavoué. Ça ne devait pas être très agréable. Et là encore, on aurait bien aimé savoir quelle a été la réponse de Pierre. Eh bien, passez votre chemin, vous ne le saurez pas. Parce que Paul ne le raconte pas, qu'on n'a pas de mémoire de Pierre et de lettres de Pierre. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, il faut imaginer. Il faut imaginer ce qui s'est passé ensuite, en regardant un peu ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche. Vous voulez que je vous raconte ce que je crois, même si c'est pure imagination. À mon avis, si Pierre avait fait amende honorable et avait gagné, c'est-à-dire s'il avait reconnu que c'est Paul qui avait raison, et donc que tous les autres avaient tort, Paul l'aurait raconté. Oh, tiens, une victoire pareille, il ne s'en serait pas privé. Donc, en fait, je pense que Paul n'a pas eu gain de cause. Que Pierre lui a dit très bien, mais pour le moment, c'est comme ça. Et que Paul est parti, un peu l'oreille basse, dans son parcours, il n'est plus jamais revenu à Antioche et n'a plus jamais rencontré Pierre. Non. Maintenant, j'essaye de réfléchir sur ce que ça signifie. Paul dit qu'il a voulu garder la vérité de l'Évangile. À long terme, l'Église, et même pas très à long terme, en quelques décennies, vers 100 après Jésus-Christ, 110, 115, l'église d'Antioche sera entièrement païenne. Ignace d'Antioche est un grec, on a une trace en 115. Hein, l'évêque d'Antioche, c'est Ignace qui écrit des lettres, il vient du paganisme. Donc à long terme, c'est Paul qui a raison. L'évangile va passer aux païens et les marques séparateurs venant de la loi juive vont tomber chez ces païens, vont disparaître. Les judéo-chrétiens peuvent les garder, ça gêne personne, mais en gros, on va les imposer à personne. À long terme, c'est Paul qui a gagné. À court terme, il était peut-être intelligent, diplomate de la part de Pierre de ne pas couper les ponts avec Jacques de Jérusalem. Autrement dit, de ne pas couper les ponts avec ceux qui étaient, j'allais dire, au commencement, dans ce lieu d'incarnation de Jésus et de son histoire. Si le christianisme avait coupé les ponts avec ça, je vous le disais tout à l'heure, il serait devenu une gnose. Et Paul aurait été assez fort hein, pour avoir un Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Bon, il lui aurait manqué la croix quand même. Donc, en fait, ça aurait été plus compliqué que ça. Mais le danger était de perdre l'ancrage dans l'histoire, dans la réalité quotidienne du monde juif. Et c'est donc Pierre qui, là, garde, au fond, le lien d'unité avec ceux de Jérusalem. Moi, je me dis que dans l'histoire de l'Église, ça va être tout le temps comme ça. Il y aura tout le temps des mouvements qui resteront liés à l'histoire et puis qui garderont l'unité par des essais de compromis, sinon de compromission. Puis vous aurez tout le temps des mouvements radicaux. On connaît celui de François d'Assise, mais il y en a eu plein d'autres, qui diront « Non, l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est autre chose. Arrêtez de votre façon de tout mélanger, d'accepter tout. L'Évangile, c'est autre chose. » Et les deux sont nécessaires. Il faut garder une nécessaire unité à coup parfois de compromis pas toujours reluisants. On ne l'a pas toujours gardé. Et ça a peut-être été une erreur. Et il faut en même temps tenir la radicalité, l'authenticité de l'Évangile, qui est l'Évangile pour tous, sans discrimination, sans mérite et par pure grâce. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette affaire. J'ai trouvé une confirmation il y a quelques années en me baladant dans Rome, et dans une église de Rome, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai trouvé ce tableau qui vaut peut-être pas pipette, qui, au fond, ont transformé Pierre en pape. Déjà, il a une tiare, donc on doit être au XVIIe siècle. Et Pierre est en train d'essayer de sermonner Paul. Alors, moi, ce que je trouve génial dans ce tableau, c'est l'air buté et radical de Paul avec son épée et son livre, et les yeux pleins de commisération de Pierre, dont on a l'impression qu'il lui dit « Mon pauvre ami, tu ne changeras jamais. » Donc, je photographiais le tableau et je vous le livre. Pour moi, c'est une illustration de ce que Paul nous raconte dans la lettre aux Galates et de cette tension qui fait partie du christianisme entre, dans tous les domaines, la nécessaire incarnation dans un monde qui est ce qui est, et avec une église qui est ce qu'elle est, qui n'est pas plus belle que ça, et un monde qui n'est pas plus beau que ça. Et puis la radicalité du message dont on parlera cet après-midi. Avez-vous des questions? Ça va, on a encore 5 minutes. Non, ça va? Vous êtes mort de faim? Peut-être un peu gelé, non? Alors, quelle heure est-il? J'y vois rien. Ah, mais on est très à l'heure, il est juste midi. Alors, apparaît au fond de la salle, Jean-Denis Tétier, qui est notre libraire. Bonjour Jean-Denis. Et qui a apporté plein de livres sur Paul. Non, vous ne m'avez rien apporté? Oh, quelle déception. Vous n'avez pas mon encyclo? Mon encyclo? Ah bon, d'accord. Non, non, non.